la première. Tout autre chose.
Véronique Thiberghien.
Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission « L'esprit dispersé, comprendre et traiter les troubles de l'attention ou de la concentration ». Le trouble du déficit de l'attention est un trouble neurologique d'origine génétique, donc souvent héréditaire, et neurobiochimique, qui peut être très problématique chez l'enfant, puis chez l'adulte, car on ne perd pas ces TDA en même temps que ces dernières dents de lait. Généralement, on les traîne plutôt dans sa vie d'adulte et ils causeront souvent des difficultés à se concentrer, à mener des tâches à terme et à y voir clair dans ses émotions. S'en suivent, avec les relations amoureuses par exemple, des relations complexes, des problèmes d'estime de soi, de la culpabilité également. Mais dès la prise de conscience de ce trouble, on peut apprendre à vivre avec grâce à des thérapies adaptées ainsi qu'à un ensemble de conseils qui peuvent réellement être bénéfiques au quotidien. Nous parlons donc de ces troubles de la concentration, de l'attention aujourd'hui avec notre invitée, le docteur Catherine Gillin. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver. Vous êtes neurologue et neuropsychiatre, spécialiste en réadaptation fonctionnelle. On va donc parler avec vous de ces troubles, les définir, apporter des explications sur les mécanismes également, et puis essayer de voir ce que l'on fait une fois qu'on est diagnostiqué TDA. Alors on va aussi essayer de remettre un peu les pendules à l'heure, parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de TDA, et surtout de son corollaire, le traitement Rélatine ou Rétaline, en fonction du pays dans lequel on se trouve, mais qui est visiblement exactement la même molécule de toute façon. On n'en a jamais autant prescrit aussi. On va essayer de comprendre si tout cela est véritablement utile et dans quel cas cela peut s'avérer effectivement utile. Avec les questions de nos auditeurs également au 02 737 26 06 comme d'habitude. 02 737 26 06, c'est Héloïse qui prend vos appels aujourd'hui. Nous pouvons également être contactés via le site lapremière.be. Vous cliquez sur l'icône de l'émission ou un message par SMS au 60 31 50 centimes le message. On voulait ouvrir cette émission avec un peu de sourire. Plongeons-nous dans les années 70. C'est le premier film réalisé par Pierre Richard. Ça s'appelle Le Distrait et ça a lancé, propulsé la carrière de Pierre Richard en tant qu'acteur et réalisateur. Donc, un extrait du film Le Distrait.
Entrez, monsieur, je vous en prie. Voilà, entrez, monsieur, je vous en prie. Entrez.
Bonjour, monsieur.
Asseyez-vous.
Pardon.
Je vous en prie. Merci.
Je vous en prie.
Permettez-moi.
Pardon. Je me présente.
Enchanté.
Merci. Merci.
Que désirez-vous?
Une chaise.
Une chaise? Certainement.
Ah, merci. Pardon. Voilà ce dont il s'agit. Mon dossier.
Ah. Dossier.
Merci. Oh, j'ai oublié de mettre les feuilles de papier dedans. Mon stylo. Merci. Mon briquet. Dans mon manteau.
Son manteau.
Mon manteau.
Son manteau.
Mon manteau.
Son manteau.
Ah ! Mon dossier. Ah ! Alors voilà. Mes lunettes.
Oh ! Le manteau.
Ah !
Pardon.
Oui. Merci, hein. Yep. Merci. Bon, au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Ah, si les troubles de l'attention pouvaient se limiter à quelques moments de distraction qui peuvent prêter à sourire, tout cela serait fort simple, évidemment, Catherine Gillin, mais ça n'est pas le cas. Et quand on parle de troubles de l'attention, je disais, on n'en a jamais autant parlé que ces dernières années. Je me souviens des premières émissions qu'on a faites à ce sujet, c'était un petit peu nébuleux. Et puis, les années avançant, on s'est aperçu que non seulement on en parlait beaucoup, mais on détectait beaucoup les troubles de l'attention, et jusqu'au point où on s'est demandé, mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin. Donc on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure, d'accord ? Et essayer de voir. D'un point de vue neurologique, s'entend, on a déjà fait d'autres émissions avec les associations qui sont hyper performantes en la matière, qui apportent une aide réelle. Donc on va essayer de définir d'abord ce que c'est un trouble de l'attention réellement et pourquoi on parle d'origine neurologique.
Oui, et votre extrait est intéressant parce qu'effectivement, toute distraction n'est pas un trouble de l'attention.
Ouais.
Ça, c'est la première chose à dire. Je crois qu'aujourd'hui, on doit définir à la fois ce que c'est et à la fois ce que ce n'est pas. Alors, tout d'abord, le trouble de l'attention, donc résumé TDA avec ou sans H qui veut dire hyperactivité, c'est un syndrome. Et un syndrome, c'est quoi? C'est un ensemble de signes cliniques qui s'associent selon des critères qui sont précisés à l'avance. Et nous, on a comme référence une espèce de dictionnaire des pathologies psychiatriques qui s'appelle le DSM. Et c'est important aussi parce que le diagnostic sera essentiellement clinique. On n'a pas d'examen paraclinique pour appuyer, si vous voulez, nos hypothèses diagnostiques. Alors, ce n'est pas une maladie, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui met la santé en péril, mais ce n'est pas non plus quelque chose dont on guérit, entre guillemets. Un trouble, selon la définition du dictionnaire, c'est un dysfonctionnement d'un système ou d'un organe. Alors ce dysfonctionnement, dans ce cas-ci, il est, comme vous l'avez dit, effectivement neurobiologique. Ce qui se passe dans le trouble déficitaire de l'attention, c'est qu'il y a une disharmonie au niveau de l'activité de certaines molécules chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui sont les cellules chimiques permettant, si vous voulez, le passage d'une information cellulaire dans le cerveau et dans des zones très spécifiques du cerveau qui sont justement les zones du développement, entre guillemets, humain, la zone principalement préfrontale et toutes les connexions qu'on peut avoir de ce lobe vers les autres structures et qui nous caractérise en tant qu'être humain par rapport, par exemple, à nos cousins proches, les chimpanzés. Et cette disharmonie va mener à des perturbations sur le plan psychopathologique au sens large, donc entendons en bref comportement, adaptation sociale, et aussi sur le plan dit neuropsychologique, c'est-à-dire toutes les fonctions intellectuelles liées aux apprentissages. Alors, pourquoi il y a tant de polémiques sur ce trouble de l'attention? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, je crois, c'est que, par définition, c'est un syndrome qui éclot au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Il faut jamais oublier que le cerveau d'un enfant, comme le reste de son corps, n'est pas du tout terminé. On trouve normal de mesurer la croissance sur une toise. Eh bien, le cerveau aussi a énormément de modifications qui se passent, surtout pendant les 10 premières années de vie, où il y a vraiment, si vous voulez, encore des migrations cellulaires dans la première année, et puis un développement considérable de toute la circuiterie qui va vraiment engrammer, pour prendre un terme technique, engrammer tous les apprentissages pour qu'ils deviennent par la suite des automatismes moteurs et intellectuels. Et c'est vraiment qu'à la fin de l'adolescence, parce qu'il y a aussi tout le climat hormonal qui va changer les choses, que le cerveau sera terminé. Et donc, c'est au fur et à mesure de cette croissance, de cette maturation, de cette éducation, parce que l'éducation, elle fait ça, elle accompagne, si vous voulez, la croissance du cerveau, que les symptômes vont principalement apparaître. Et je pense qu'émotionnellement, c'est mal vécu par un parent. Quel parent apprécie que son enfant ait quelques problèmes que ce soit, que ce soit d'ordre médical, psychologique ou autre? Donc, on a tous une espèce de projet narcissique sur son enfant qui est tout à fait normal et inconscient, et donc on a du mal à accepter ça. Alors on a autant de mal que c'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain comme un rhume, comme on le disait. C'est progressif. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus quelque chose qui guérit, entre guillemets. Et donc il nécessite que ce soit vraiment identifié et que ce soit pris en charge. Alors, autre raison, il y a une grande différence entre les pays latins et les pays anglo-saxons, parce que les pays latins sont beaucoup plus, on va dire, lacaniens au sens large du terme, et acceptent moins l'implication neurobiologique. Pourtant, ces preuves neurobiologiques sont concrètes. Oui. Maintenant, on a vraiment identifié plusieurs sous-types génétiques qui favorisent le syndrome. Donc, au départ, pourquoi il y a une expression clinique aussi variable? C'est parce qu'il y a l'addition de plusieurs facteurs pour que ça éclose. En bref, il y a la susceptibilité génétique qui est vraiment majeure. Elle est en raison à peu près à 75%. D'ailleurs, il faut toujours regarder dans la famille. Il y a toujours l'un ou l'autre parent qui a une attitude TDA. Alors, cette prédisposition génétique, elle va aussi être modulée par deux choses majeures. D'une part, le climat métabolique ou toxique du fœtus. Parce que durant la grossesse, si la mère, par exemple, a des troubles de l'hypertension artérielle, ou si la mère fume, le tabagisme est un très très grand pourvoyeur de TDA, l'alcool aussi, bien sûr, toutes les drogues, ou bien s'il y a un souci durant l'accouchement, ça peut favoriser aussi l'éclosion de troubles déficitaires d'attention. Et puis, leur dernier point essentiel, c'est l'éducation. Alors, à la fois, l'éducation n'est pas la cause du TDA, mais une éducation mal adaptée peut effectivement parfois ne pas favoriser une éclosion beaucoup plus importante que cela aurait été à d'autres dans d'autres milieux de famille, quoi.
Alors, quand vous dites qu'effectivement, jusqu'à l'âge de 10 ans, plus ou moins, les choses évoluent pour l'enfant, on peut comprendre aussi que pour un parent, ce soit difficile de mettre le doigt sur des problèmes ou des attitudes que l'enfant va avoir et de se dire, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas consulter ou est-ce qu'on ne devrait pas essayer de confirmer ce que je pourrais penser par rapport au TDA chez mon enfant ? En sachant peut-être pas que soi-même on l'a été ou qu'on l'est, enfin ou qu'on l'est plutôt, pas qu'on l'a été.
Tout à fait, et c'est important ce que vous dites parce qu'on se rend compte statistiquement que les parents consultent principalement en âge scolaire parce que effectivement, ce qui les dérange le plus, c'est les perturbations, parce que c'est vrai que il y a plus de la moitié des TDA qui sont en échec scolaire. On expliquera pourquoi après. Alors que quand on fait l'anamnèse sur les premières années, qui sont parfois les 5, 6, 7, 8 premières années, on se rend compte qu'il y avait tous les symptômes comportementaux étaient là et que les parents s'y sont adaptés, entre guillemets. Et c'est parfois même l'institutrice ou d'autres personnes qui tout à coup éveillent un petit peu et disent, tiens, est-ce que votre enfant ne serait pas TDA ? Donc ça, c'est vrai que c'est important, c'est quelque chose qui s'installe de façon progressive. Mais j'aimerais d'emblée vraiment insister, mais de façon énorme, sur le fait que le TDA n'est pas que un trouble scolaire. Please, loin s'en faut. C'est là que ça s'éclate le plus, évidemment. Et chez un adulte, ça sera souvent, effectivement, dans sa vie professionnelle. Mais c'est tout le reste. C'est tout le mode de développement, le mode de la façon dont on appréhende la vie qui va être en cause.
Disons que peut-être que là où on établit des stratégies parallèles pour pouvoir s'en sortir dans la vie traditionnelle et qui fonctionne, ces stratégies ne vont pas fonctionner à l'école parce que l'école a quand même un fonctionnement particulier, une demande particulière et que c'est justement là que le bas blesse. Et c'est peut-être pour ça aussi que là, on va mieux peut-être détecter des troubles de l'attention que dans la vie quotidienne où on a toujours des petites stratégies pour vivre avec, composer, etc.
Oui, et puis à l'école, par définition, vous devez être attentif et vous devez être concentré. Entre nous, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup trop. Quand on voit par rapport à la maturation cérébrale, jusqu'à peu près 8-10 ans, un enfant théoriquement peut pas mettre un enfant sans TDA ne peut pas maintenir une attention efficace plus de 10 minutes. Donc, il ne faut pas demander avec tout ce qu'on leur impose actuellement. Donc, c'est justement le cadre le plus difficile pour eux. Alors, le trouble de l'attention, c'est principalement trois symptômes. C'est effectivement une inattention ou une hyper-attention dans le sens que l'attention est sans cesse mobilisée par d'autres pensées. C'est une grande difficulté du contrôle de l'impulsivité. Donc, un enfant qui n'a pas été éduqué est un enfant qui va bouger et parler sans se poser de questions, sans mettre de frein, si vous voulez, de cadre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit lui apprendre. Et puis, effectivement, le troisième symptôme, qui est très variable d'une personne à l'autre, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité. Moi, je préfère le terme hyperkinésie pour le grec kinésis mouvement, parce qu'il y a parfois des activités qui peuvent être menées à bien. L'hyperkinésie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait à bon escient, qui n'est pas fait selon l'activité qui est en cours. C'est avec beaucoup de maladresse. Enfin, c'est une activité qui n'est pas très compétente, quoi.
Alors, quand on parle de TDA chez les enfants ou même chez les adultes, quels sont les éléments qui devraient alarmer à la fois le parent et peut-être aussi le médecin traitant chez qui on va se tourner en premier et qui est toujours en première ligne pour répondre aux questions des parents dans ce cas-là?
Mais c'est vrai qu'en fait, les premiers signes vont être tellement variables.
Oui.
Soit directement au niveau scolaire, les échecs scolaires, parce que précisément, donc, en fait, si vous voulez, l'attention, c'est un phénomène primordial qui dépend de deux choses. Ça dépend de votre éveil et votre vigilance. Donc déjà, il faut être sûr que ça soit bien en place. Et puis l'attention, c'est le chef de file de tout. Vous devez être attentif autant pour apprendre de façon formelle une leçon, mais aussi pour vous rendre compte de, par exemple, une éducation que le parent vous donne, vous rendre compte de l'état d'une situation et du comportement que vous allez lui adapter, si vous voulez. Et donc, justement, l'éducation, c'est ça. C'est le développement des capacités d'attention qui permettent d'une part, la mise en mémoire de tout ce qu'on apprend et de notre biographie. D'autre part, qui permettent de petit à petit développer les stratégies comportementales adaptées qu'on appelle en gros l'ensemble des fonctions exécutives, c'est-à-dire que vous apprenez comment gérer une situation. Si je peux donner une métaphore, si vous voulez par exemple faire de la voile, il ne s'agit pas seulement de savoir comment carguer une voile et diriger
le bateau,
la barre, mais il faut aussi étudier les vents et les courants, il faut en tenir compte, il faut anticiper, et puis alors il faut agir et puis réagir en fonction de ce qui va se passer. Donc tout ça, c'est un comportement, si vous voulez, élaboré, qui s'apprend, hein, en gros, les tâches exécutives, mais qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Pour un étudiant, par exemple, théoriquement, il doit se dire, tiens, j'ai examen à telle date, donc prévoir déjà durant l'année un petit peu de réviser, de s'intéresser dans la littérature, et puis de prévoir le blocus telle matière va me prendre peu, telle autre, etc. Donc il y a toute une programmation, si vous voulez, une planification. Et ça manque cruellement chez les gens qui ont des troubles déficitaires de l'attention. Nous, les gens qui n'en ont pas, ils font ça de façon tout à fait automatique. Et pour eux, ils doivent systématiquement, comme ça, décoder et séquencer leur gestuelle. Donc, au niveau des symptômes qui alarment, écoutez, en général, les plaintes, c'est ça. C'est soit mon enfant est rêveur, il n'écoute pas, il n'obéit pas. Alors, c'est systématique, il met un temps fou. Parce qu'effectivement, les TDA sont très très fâchés avec le temps. Mmh. Ils ont toujours l'impression qu'ils ont tout le temps pour y arriver. Et puis qu'ils vont encore avoir le temps de faire ci, faire ça, faire ça. Et puis,
au fond, ils n'anticipent pas.
Absolument, c'est tout à fait ça. Mmh. C'est un défaut total d'anticipation et de réalisation vraiment du temps physique que ça va leur prendre. Exactement, ce sont des gens qui sont systématiquement en retard, qui ne rendent pas les dossiers à temps. D'où aussi la distraction tout à fait majeure, quoi, parce qu'ils sont sans cesse dans des pensées autres de ce qu'ils pourraient faire. Donc, c'est donc un enfant de cet ordre-là. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de problèmes, entre guillemets, dits comportementaux. Pourquoi ? Parce que un enfant TDA n'apprend pas de ses erreurs, contrairement à l'enfant classique. Et alors aussi, il est tellement distrait qu'il n'écoute pas la consigne jusqu'au bout. Donc, c'est vrai qu'il y a des processus éducationnels à mettre en place pour eux. Ça doit être une éducation particulièrement cadrante, dont la première, c'est d'énoncer un ordre simple, bref, pas du tout avec des frioritures, si vous voulez, pas répéter non plus. Il y a des tas de choses à mettre en place, si vous voulez, au niveau éducatif, qui sont vraiment importantes. Mais en gros, c'est les plaintes principales. Une autre plainte qui peut vraiment aussi être utile à connaître, c'est les troubles du sommeil. Classiquement, cette espèce de pensée, parce que quand on a des troubles de l'attention, on a une pensée sans cesse en mouvement. C'est comme une espèce de boule de flipper en permanence en train de chercher une cible et ne pas pouvoir rester accroché sur la cible, typiquement. Et donc, ils ont une pensée sans cesse bouillonnante avec des grandes, grandes difficultés d'endormissement qui peuvent parfois mettre une heure, deux heures, voire plus. Et donc, bien sûr, comme il y a un mauvais sommeil, le lendemain, l'attention est encore moins efficace. Et donc, très très souvent, très tôt, ce sont des enfants qui dorment mal et qui mettent du temps à s'endormir. Ça peut être un symptôme annonciateur.
Est-ce que, puisque comme je le disais, les premières personnes chez qui on va se retourner, c'est le médecin traitant. Est-ce que le médecin traitant est suffisamment armé pour confirmer le diagnostic ou faut-il justement une spécialisation et plus particulièrement alors se tourner vers la neurologie pour pouvoir confirmer clairement un diagnostic de TDA ?
Indéniablement, oui, parce que c'est vraiment justement pour ne pas faire ni de surdiagnostic ni de sous-diagnostic. C'est quelque chose, mais comme vous l'avez dit, c'est aussi une science assez récente. Pourquoi est-elle récente ? Parce qu'on a fait beaucoup de progrès dans la compréhension du trouble, à la fois au niveau génétique, au niveau des imageries fonctionnelles et au niveau, bien sûr, de l'étude clinique et, si vous voulez, de la standardisation du syndrome clinique qui était tout à fait reconnu par les multiples études et notamment par la FDA, la fameuse Food and Drug Administration aux États-Unis. En plus, c'est vrai, on ne l'a pas dit, mais c'est quelque chose de très fréquent. Hein. Au moins un enfant sur 20, donc un enfant par classe quand même, c'est pas mal. Et semble-t-il au moins, parce qu'il est sans doute sous-diagnostiqué, notamment chez les filles. Donc, je crois qu'effectivement, à l'heure actuelle, en tout cas, ça reste encore un diagnostic de spécialiste, mais pas de spécialiste tout seul dans son cabinet. C'est un diagnostic qui doit impérativement être pluridisciplinaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut l'avis médical spécialisé, mais il faut aussi un avis de neuropsychologue. Donc, les neuropsychologues, ce sont les gens qui s'attachent justement aux fonctions cognitives, aux fonctions intellectuelles liées aux apprentissages, comme vous avez par exemple un logopède pour la lecture et l'arithmétique. Il faut certainement chez l'adulte un avis psychiatrique parce que on en parlera plus tard, mais il y a beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire de pathologies associées qui peuvent se greffer sur le TDA pour faire aussi la différence. Il faut l'avis de logopède, il faut un interrogatoire extrêmement fouillé, non seulement du patient lui-même, mais de son entourage, parents, amis, professeurs, collègues chez l'adulte. C'est pas quelque chose qu'on fait vraiment en deux coups de cuillère à peau. Et puis, par la suite, il faut impérativement un accompagnement pluridisciplinaire. C'est une prise en charge qui doit être large et qui est au long cours. Parce que, comme on l'a dit au début, on n'en guérit pas. Mais on apprend, enfin guérir c'est un mauvais terme puisqu'on l'a dit, c'était pas une maladie, mais voilà, quand on l'a, on l'a, donc on apprend à vivre avec, on apprend à garder les points forts parce qu'il y en a, sont des gens pleins d'énergie, curieux, pleins de projets, souvent très très empathiques, très gentils, et puis à contrario, on apprend à gérer, à mieux programmer, voilà.
Et ce qu'on va faire aussi, de plus en plus je pense aujourd'hui, c'est mettre en avant et pouvoir gérer et vivre et faire de son TDA une espèce d'option de vie.
Tout à fait.
Comme l'on fait très naturellement et sans accompagnement, mais ils ne sont pas tous armés pour faire ce genre de choses. Des gens très célèbres, comme vous m'avez dit Churchill, mais aussi un grand champion olympique américain, qui ont réussi à mettre de côté les problématiques que cela pouvait poser et qui ont enrichi quelque part tous les troubles qu'ils avaient et qui s'en sont servis pour réussir dans la vie. Tout le monde n'est pas armé, mais quelque part, aujourd'hui, j'imagine que c'est ça qu'on va développer aussi en multidisciplinaire, c'est pouvoir mettre, dire voilà, tu es TDA, mais tu vas pouvoir faire ça, parce que tu es plus que les autres, que de cette façon, etc.
Tout à fait. Et il faut pour ça, effectivement, expliquer, dédramatiser, informer non seulement le patient, souvent l'enfant, mais son entourage. Oui. Parce que il n'y a rien à faire. Le comportement des parents par rapport, et de la fratrie, parce que ce n'est pas facile pour les autres non plus, le TDA, il capte toute l'attention. Hein, si les autres ne le sont pas, bonjour. Mais le comportement, si vous voulez, de cadre familial est vraiment essentiel. Et là, malheureusement, on se heurte encore à beaucoup de problématiques, et notamment chez les pères. Mmh. Les pères acceptent beaucoup moins ce sujet, avec parfois des dichotomies tout à fait gravissimes pour l'enfant. Quoi. Mmh.
Dans les témoignages qui nous sont arrivés par SMS, mon fils a été diagnostiqué TDA en avril avec un trouble de l'apprentissage. Il est sous traitement. Aujourd'hui, tout est plus facile grâce à toute l'équipe pluridisciplinaire. On en parlait. Voilà. Y compris nous, parents et école.
Parfait.
Il a repris confiance en lui et les résultats sont là, nous dit cette personne.
Magnifique.
Est-ce la science ou la maladie qui est récente? On parlait du grand nombre d'enfants. Vous dites 1 sur 20 qui pourrait être TDA. Donc, est-ce que c'est la science qui est avancée? Est-ce que c'est la maladie qui est récente ou est-ce que ça a pu toujours être le cas dans notre société, mais qu'on ne le découvre qu'aujourd'hui?
Alors, je vais vous dire quelque chose de sympathique. Figurez-vous qu'Hippocrate, quand même 400 ans avant Jésus-Christ, a déjà décrit le TDA.
Ah, ça peut être effrayant alors.
Non, ça veut bien dire qu'effectivement, c'est un trouble neurobiologique. Mmh. Il avait exactement décrit la clinique et d'ailleurs, de façon très judicieuse, il avait déjà conseillé d'éviter les sucres dits rapides, ce qui est le cas, et conseillé les poissons, donc les oméga-3, ce qui est tout à fait le cas. Donc, c'est vraiment absolument interpellant. Ah ouais. Et quand on regarde la littérature, on le décrit déjà très nettement au début du 19e. Et en fait, c'est vraiment la publication d'un anglais Steele en 1902 qui a été le départ, si vous voulez, de la science actuelle. Ce qu'il y a, c'est qu'aussi, nous sommes de plus en plus, entre guillemets, concentrés, et de plus en plus concentrés en ville. Et donc, il y a plus d'éclosion. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un peu TDA, mais que vous vivez à la campagne, vous pouvez beaucoup sortir, beaucoup courir, beaucoup vous dépenser, que vous avez une scolarité peut-être moins pesante, etc., etc., ça va moins éclore. Mmh. Et donc aussi la concentration en ville, et aussi parce que les gens TDA cherchent les stimulations, ils adorent ça, que ce soit les stimulations intellectuelles, le va-vite, la conduite, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, aux États-Unis, les assurances augmentent de 25% les cotisations pour les TDA. Oui, ils ont beaucoup plus d'accidents que les autres.
Ah oui.
Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont impulsifs, non seulement ils sont distraits, mais ils sont impulsifs, ils adorent la vitesse, ils adorent les motos, ils adorent tout ça. Bref, donc aussi on pense que les gens, si vous voulez, personnalité TDA, vont avoir tendance à venir en ville. Mais comme les TDA font des TDA, donc il y a une espèce de concentration dans nos sociétés actuelles. Ça, c'est assez vrai. C'est pour ça que c'est plus dans les pays industrialisés et plus dans les villes.
Donc c'est multifactoriel, c'est à la fois la société, l'évolution,
oui, très multifactoriel.
On va y revenir dans quelques instants, mais on répondra juste après la petite parenthèse qu'on va ouvrir à la question qui nous est arrivée aussi par SMS. Est-ce que l'un des jumeaux peut être atteint de TDA lorsque l'on est jumeau? Est-il possible que l'autre échappe, ou est-ce que c'est une fatalité pour les enfants de parents TDA de devenir également TDA? On en parle également avec une autre question qui nous est arrivée. Mon fils vient d'être détecté TDA, je suis en rupture avec ma famille qui ne comprend pas la maladie. Comment leur expliquer? Y a-t-il une prise en charge pour des enfants de 6 ans? Il est 10h35, on se retrouve dans quelques instants.
Nissan change les règles. Désormais, vous roulez en Nissan Qashqai pour seulement 16 990 euros ou 139 euros par mois. Offre soumise à condition. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Le forum de midi.
Les points forts et les points faibles de la STIB, des Tech et de l'AEN sous la loupe des enquêteurs de Testachat. Quel est votre avis en tant qu'usager sur la ponctualité des métros, trams, bus, confort des véhicules, accessibilité aux arrêts et aussi sur la sécurité dans les transports en commun? On en parle ensemble dans le forum de ce midi.
Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur lapremière.be.
La première.
C'est tout autre chose et nous parlons des troubles de l'attention avec le docteur Catherine Gillin, neurologue et neuropsychiatre, qui est avec nous, et vos questions qui nous arrivent. Dans les questions qui nous sont arrivées, est-ce que l'un des jumeaux peut être atteint de TDA? Est-ce possible que l'autre y échappe? Sous-entendu, quand on a un parent TDA par exemple, ou quand on a des enfants, est-ce que tous les enfants vont être atteints de TDA? Vous l'avez plus ou moins déjà dit, ce n'est pas systématique.
C'est pas systématique. On pense que c'est plutôt autosomal dominant, donc un risque sur deux quand même. En cas de jumeaux, c'est vrai que s'ils sont des jumeaux vrais, l'autre c'est à peu près 95%.
Ah oui, quand même.
Ouais, okay. Oui. Mais une fois de plus, voilà, il y a une personnalité propre, il y a l'éducation, il y a l'exposition durant la grossesse, comme on l'a dit, tout ça joue.
La question qui nous était arrivée également, c'est celle de Mélanie, dont le fils vient d'être détecté TDA. Elle se demande comment en parler à sa famille qui ne comprend pas la maladie. Et je pense que si on la comprend pas non plus, et qu'il est difficile aujourd'hui peut-être d'en parler auprès de ses proches, c'est parce que on en a beaucoup entendu parler, mais qu'on n'a peut-être pas non plus fait très attention. on n'a peut-être pas fait très attention à ce qui était dit. Et puis, on a beaucoup parlé de la rétaline ou la rétaline, en fonction du pays dans lequel on se trouve, qui est à la fois aujourd'hui saluée et décriée, et qu'on ne sait plus non plus très bien. On a tendance à se dire, oui, il a été diagnostiqué TDA, ton fils, mais bon, au fond, ce n'est pas très grave.
Alors, je pense qu'effectivement, l'histoire de cette famille est importante parce que rejeter, c'est une attitude personnellement que je trouve particulière de la part de cette famille. Pour rejeter ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui. J'ai l'impression que certaines personnes, quand ils se mettent la tête dans le sable, ben alors il n'y aura pas, quoi. Voilà, c'est très dérangeant. Je crois que la chose la plus efficace à faire, c'est d'emmener sa famille à l'association TDA. Cette association est vraiment extrêmement efficace, très cordiale et très bien parce que ce n'est pas médicalisé d'emblée. Et les réunions, que ce soit individuelles ou avec plusieurs personnes, les rencontres des gens qui travaillent là ou les réunions qu'on peut avoir avec d'autres familles TDA permettent de comprendre, de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Et qu'effectivement, dans les familles, l'histoire est un petit peu différente, mais qu'il y a un substrat qui est le même. Et donc, de se rendre compte qu'il s'agit d'une réalité et d'une réalité qui peut clairement s'améliorer si on y fait face.
Alors, la rétaline ou rétaline, donc, qu'en est-il exactement de ce médicament?
Pour expliquer l'effet de la rilatine, où en Belgique elle est commercialisée aussi sous le nom de Concerta, donc c'est le méthylphénidate. Donc en fait, je vous parlais au tout début de l'origine neurobiologique de ce trouble, et il est principalement dû à la perturbation d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine et d'un autre neurotransmetteur qui est la noradrénaline. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est largement représenté donc au niveau de ce fameux lobe préfrontal, lobe de l'éducation, et la noradrénaline au niveau de ce qu'on appelle le striatum, qui est un autre circuit tout à fait en relation, si vous voulez, et qui d'ailleurs implique beaucoup l'émotionnel. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important, et ça on l'a pas dit, mais c'est vrai que l'émotionnel va être vraiment majeur dans la prise en charge de ce trouble. Et donc, si vous voulez, c'est pas un manque de cette molécule chimique, qui sont donc les molécules qui permettent au niveau des synapses, des espèces de prises électriques entre deux cellules nerveuses, le passage de l'information. C'est une perturbation de la mise en place, si vous voulez, d'une structure cohérente. Et donc, on s'est rendu compte déjà avant la rilatine que les dérivés d'amphétamines, enfin les amphétamines, en fait, amélioraient la concentration parce que justement, elles vont avoir un impact sur cet effet dopamine. Et le méthylphénidate, j'aimerais vraiment, donc la rilatine, j'aimerais beaucoup, beaucoup la dédramatiser. Elle a été synthétisée en 1944.
Ah, c'est pas d'hier. Hein.
Voilà. Par un Suisse qui l'a essayé sur sa femme qui s'appelait Rita, d'où le nom Ritaline. Voilà. Elle a été commercialisée depuis 1952.
Oui.
OK. Elle a fait. Elle a été sujet du plus grand, large étude au monde et il n'y a jamais, mais jamais, eu un effet secondaire grave. Jamais. Alors que l'aspirine tue chaque année et qu'on n'en fait pas un grand drame. Alors on dit oui, mais au secours, c'est une amphétamine. Non, c'est un analogue d'amphétamine. C'est-à-dire que contrairement à l'amphétamine qui va se fixer à la fois sur la synapse, cette petite prise, mais aussi dans la cellule et donc provoquer une addiction, ici, le méthylphénidate ne se fixe que sur la synapse, donc avec un effet transitoire et ne provoque aucune addiction. Que du contraire. Quand on souffre d'un TDA, on n'est pas bien dans sa peau parce que justement, on ne parvient pas à aller au bout des choses, on ne parvient pas à être concentré, on ne parvient pas, on l'a expliqué tout à l'heure, à apprendre, à aller au bout de cet âge, avoir des relations continues, etc. Et donc, ces gens qui souffrent vont chercher quelque chose qui les calme, qui calme leur esprit. Qu'est-ce qui calme ? La nicotine, à fond la caisse, c'est très très dopaminergique, donc il y a 75% de tabagisme. Le cannabis, énormément. Il y a 80% de gens qui consomment du cannabis qui sont TDA, en fait. L'alcool, 75% d'alcoolisme.
Ah, que du bon pour la santé. Hein,
mais voilà. Donc, on se rend compte que les gens qui ont été pris en charge tôt, qui sont traités par rilatine et bien sûr la psychoéducation, hein, je le dis tout de suite, tôt, ne développent absolument pas ou très très peu ces addictions. Donc ça protège. Une fois de plus, c'est même la FDA qui le dit. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très, très scientifiquement prouvé. Alors, les détracteurs de la rilatine, c'est vraiment du j'ai presque envie de dire du commérage, excusez-moi. Il n'y a pas de publication scientifique, donc bien faite, qui prouve un effet secondaire grave. Il n'y en a pas. Et les publications sont très très larges pour montrer son innocuité. Alors, il y a des effets secondaires, évidemment. C'est un médicament, évidemment. Il faut donc le donner uniquement dans le cas de TDA. Pas du tout chez quelqu'un distrait ou quelqu'un qui réussit pas bien ses examens. Non, uniquement dans un TDA, avec surveillance médicale, avec une psychoéducation et uniquement pendant le temps qu'il faut. Voilà.
Ça veut dire qu'on peut se passer du médicament si on a réussi à adapter, avec la prise du médicament au départ, des stratégies de vie qui vont un peu servir de tampon pour pouvoir mener quand même à bien sa vie.
Absolument. Si on revient au départ, il faut rappeler que je vous ai dit que ça suivait la maturation cérébrale.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on va accompagner la mise en place d'une circuiterie correcte. Mais vous pouvez apprendre à être attentif. Vous pouvez apprendre à planifier. Vous pouvez apprendre toutes les tâches exécutives dont on a parlé. Mais vous les apprendrez d'autant mieux que vous avez cette médication qui va vous mettre la circuiterie correctement pour l'engrammer, si vous voulez. Alors, si je peux faire une autre métaphore, si vous venez pour des troubles de la marche, je vais vous prescrire pour l'instant une canne, c'est le médicament, et le kiné, c'est la psychoéducation, ok ? C'est quand même vous qui allez marcher. En d'autres termes, c'est pas le médicament qui va réussir vos examens, loin de là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire aux parents, hein ? Ça, c'est vraiment important. Donc, vous allez être aidé pour apprendre à marcher correctement, petit à petit. Quand la circuiterie sera bien mise en place, peut-être pas chez tout le monde, parce qu'il y en a vraiment qui sont très très forts, mais chez la plupart, on pourra abandonner le médicament. Ils vont continuer les stratégies comportementales. Et puis, justement, c'est ça qui est intéressant de le reconnaître très très tôt. Plus on accompagne la maturation de l'enfant et on inscrit cette circuiterie correctement, si je peux dire ça comme ça, mieux il va se débrouiller seul. Il sera un adulte TDA autonome, parce qu'il aura vraiment inscrit, si vous voulez, un pattern correct.
Ce qui ne veut pas dire que les adultes qui aujourd'hui se soupçonnent TDA parce qu'ils présentent tous les symptômes ou tous les signes dans leur vie courante ne doivent pas éventuellement consulter et être pris en charge. Parce que si la Ritaline à ce moment-là n'est peut-être plus dans le même ordre d'idées, en tout cas l'accompagnement ou les stratégies peuvent encore être mises en place à ce moment-là.
Oui, mais la Ritaline aussi.
Ah oui, aussi.
Donc,
d'accord.
Alors ça, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un taux qu'on dit à peu près de 5% TDA adultes. Moi, je crois que c'est plus. Je crois que c'est beaucoup plus. Parce que ce qui est très interpellant, c'est les parents qui viennent en disant « Vous savez, je me reconnais dans mon enfant TDA. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de très touchant. Parce que ce sont des adultes qui vivent dans une souffrance permanente depuis 20, 30, 40 ans, parfois plus. Et en même temps, je fais une petite parenthèse, je pense qu'il y en aura moins dans 20 ans, parce que maintenant, le diagnostic beaucoup mieux. Donc, je suis convaincue que dans 20 ans, les statistiques de l'adulte vont baisser vers le bas. Donc, en fait, un adulte qui se découvre TDA actuellement, oui, on peut certainement l'aider. Et une fois de plus, au début, on fera la même chose. On va faire l'association de la médication avec, certainement, la psychoéducation, les thérapies de psychothérapie comportementale, etc.
Quand on parle de troubles chez l'adulte, par exemple, beaucoup ont été interpellés par ce que vous venez de dire par rapport au cannabis.
Oui.
Et qu'effectivement, certains sont consommateurs de cannabis, mais consommateurs conscients en ayant le trouble. C'est pas forcément l'idéal. Il paraît que dans certains pays, ça se fait de manière plus régulière.
Alors, c'est pas l'idéal pour une chose très pragmatique, c'est que le cannabis se fixe de façon définitive sur vos récepteurs cérébraux. Donc à la longue, ça provoque, quand on fait des tests neuropsychologiques justement qui mesurent les différentes capacités d'attention, de mémorisation, de flexibilité mentale, d'adaptation, etc., on voit que les gens qui consomment régulièrement le cannabis ont une altération de plus en plus significative, avec des pertes de mémoire vraiment impressionnantes. Ça, c'est le gros problème pour moi du cannabis. C'est pas du tout une question éthique. C'est une question qu'on est en train là vraiment de perturber un fonctionnement cérébral. Donc il ferait mieux de se traiter. Alors c'est vrai que chez l'adulte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des comorbidités qui sont soit des addictions, là il y en a énormément, soit le développement de pathologies psychiatriques, donc les plus fréquentes, c'est l'anxiodépression, soit aussi il y a un overlap entre les troubles d'attention et ce qu'on appelle le trouble bipolaire, qui est une maniaco-dépression qui peut ressembler, donc il ne faut pas faire de mauvais diagnostics. Et il faut impérativement traiter d'abord la comorbidité et puis seulement après traiter le TDA.
Merci pour votre émission sur le trouble TDA. Mon petit garçon. Alors, c'est dingue, c'est trois messages, c'est trois garçons.
Alors, il y a plus,
pas de petites filles.
Il y a nettement plus de garçons que de filles dans les statistiques. Entre 5 et 9 garçons pour une fille. À l'âge adulte, 1,5 homme pour une femme. Mais sans doute que c'est biaisé, parce que le garçon... Bon, de toute façon, je crois qu'il y a un peu plus chez les garçons, mais le garçon est plus volontiers hyperactif, hyperkinétique, donc ça se voit plus. La petite fille, ça va être surtout des troubles de l'attention. Donc c'est celle qu'on dit, bon, elle n'est pas très maligne, elle est plutôt rêveuse, elle boude dans son coin, et on la laisse un peu sur le côté. Donc il faut être attentif à une gamine qui est dans son coin, qui ne bouge pas, mais qui n'avance pas non plus.
Donc, mon petit garçon a été diagnostiqué il y a 2 ans grâce aux différents traitements. Il peut mener aujourd'hui une vie presque comme les autres. Merci aux neuropédiatres, psychoéducateurs, logopèdes et psychomotriciens relationnels et à la Ritaline. Ce qui est encore difficile, c'est de voir comment certaines personnes vous jugent et ne veulent rien comprendre à ce trouble. Ce qui est triste aussi, c'est de voir que même dans les écoles, il y a encore des professionnels qui ne veulent pas comprendre et prendre le traitement tellement important au sérieux, nous dit cette personne. C'est vrai qu'on voit quand même que les choses ont bien avancé. Quelque part, on a fait un grand pas en avant sur une petite période. Parce que
tout
je disais, moi j'ai fait des émissions sur le TDA TDAH aussi. Il y a, je pense, 7 ans, on a commencé, 7-8 ans, on a commencé sur la première à en parler. Je vois quand même que les choses ont quand même bien évolué. On a fait de grands pas.
On fait de grands progrès. C'est aussi effectivement grâce aux associations qui font beaucoup de conférences, oui, qui font des démarches au niveau des écoles. Et ça, c'est tout à fait vrai. À l'école, il y a la même chose que chez les parents. Il y a vraiment parfois des instituteurs qui font le diagnostic et puis il y en a d'autres qui refusent. Mmh. C'est pourtant tellement essentiel. Je ne sais pas, moi, c'est comme si on a amené son gosse à l'école en disant, vous savez, il est myope, il doit mettre ses lunettes. Et puis qu'on dit, mais non, il n'en est pas question. Je vois vraiment pas. J'ai du mal à comprendre. Mais à ce propos-là, je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, parce que pour moi, c'est quelque chose de très très important qui est un biais chez certains collègues, il faut le reconnaître, chez des parents et certains professeurs, ce n'est pas qu'un trouble scolaire. Et donc, notamment, la rilatine doit se donner impérativement en continu, les week-ends et les vacances aussi. Je prenais l'exemple du myope. Vous êtes myope le dimanche, même si vous l'êtes la semaine. C'est la même chose, même si effectivement, ça se voit un petit peu moins parce que vous n'êtes pas obligé d'être vissé sur votre chaise toute la journée. Mais pour tout ce qui est le reste, pour tout ce qui est de la vie de famille, la vie socio-familiale, les activités ludiques, c'est tellement plus agréable pour un enfant de pouvoir aller jusqu'au bout de son bouquin, de son film, de ses relations, de ses jeux avec ses copains. C'est vraiment important. C'est un apprentissage de la vie tout court aussi qui doit se faire.
On a beaucoup de témoignages d'ailleurs que de parents ou même de personnes qui ont le trouble de l'estime de soi, qui revient
très
sur
fort.
L'idée de l'estime de soi. Et on a beaucoup de témoignages de parents qui disent notre problématique principale a été de redonner de l'estime de soi à notre enfant lorsqu'il a été diagnostiqué, et de voir à quel point parfois des changements de comportement chez les parents, et on a un papa qui témoignait dans ce sens, j'ai simplement changé mon comportement vis-à-vis de mon fils lorsqu'on s'est aperçu et qu'il a été diagnostiqué, et il a retrouvé une énorme estime de lui-même. En famille, chez nous, le travail est fait à l'école aujourd'hui aussi.
Je suis extrêmement heureuse d'entendre le témoignage de ce père, que je félicite vraiment. S'il pouvait expliquer ça aux autres, c'est tellement essentiel. Alors, effectivement, je vous le disais, pour moi, le pire du TDA, c'est la souffrance morale. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne fonctionne pas comme les autres, parce qu'on est des gens qui font des efforts considérables. Il ne faut pas croire. Les devoirs, c'est un enfer, c'est un calvaire, ça dure des heures, ils se font engueuler, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts, ils ont l'impression, parce qu'ils étudient réellement pendant des heures, mais pas de façon efficace. Pour deux raisons. À la fois parce qu'effectivement, leur capacité d'attention et donc de mémorisation immédiate n'est pas bonne. Et puis, leur stratégie ne l'est pas non plus, donc ils n'ont pas une méthode de travail. Et troisième chose, je reparle un peu des troubles du sommeil, ils ont des difficultés dans l'endormissement. Or, figurez-vous que c'est durant le premier sommeil lent profond qu'on met en mémoire tout ce qu'on a fait la journée. Donc si vous dormez mal votre premier sommeil, il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas dans la mémoire. Et donc, ils ont fait des efforts considérables et pourtant, ils ratent le lendemain à l'interro. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils se disent qu'ils sont nuls. Ça, c'est typique comme phrase. Je suis nul, je ne vaux rien, mes copains réussissent. Et pourquoi mon frère, lui, en deux temps, trois mouvements, il a fini ses devoirs, il peut aller jouer, et moi, je dois continuer, etc., etc. Et donc, c'est vrai que cette baisse d'estime de soi est quelque chose d'absolument catastrophique et que c'est renchéri quand les parents, contrairement à ce père, ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un trouble médical, ce n'est qu'un fainéant, il ne veut rien entendre et qui ne font que parler en termes négatifs. Tu n'as pas réussi, tu n'as toujours pas fait ça, dépêche-toi, tu es encore en retard, etc. etc. » Et c'est absolument enfoncer le clou.
C'est parfois difficile aussi pour un parent de garder sa contenance et de garder également sa confiance en lui. On le disait, il faut déculpabiliser aussi les parents, d'une certaine façon.
Sûr.
On a juste un petit message, un monsieur qui dit, c'est bien de parler des gens qui ont réussi en étant TDA, qui sont devenus illustres et célèbres, mais attention à ne pas banaliser pourtant les troubles et la difficulté de vie qui y est associée pour beaucoup d'autres personnes.
C'est vrai.
Je suis assez d'accord aussi, mais en même temps, c'est montrer et donner, dire aux parents, voilà, ça ne veut pas dire que votre enfant est en échec, ça ne veut pas dire que vous êtes en échec et ça ne veut pas dire que votre système d'éducation est en échec non plus.
Voilà, je crois qu'effectivement, les adultes actuellement qui souffrent encore énormément de cette problématique, si on les interroge, justement, ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été accompagnés. Alors, l'éducation, ça, c'est vraiment fondamental parce que Il y a aussi une éducation, entre guillemets, classique qui peut parfois pas être adaptée. Mmh. On doit apprendre à éduquer un enfant TDA. Et c'est d'autant plus difficile qu'il y a souvent un des deux parents qui est TDA lui-même. Et donc, qui est un peu dispersé et qui n'est pas cadrant. Or, bon, une éducation classique, déjà, devrait être théoriquement cadrante et cohérente, mais a fortiori pour un TDA. Alors, c'est souvent une espèce d'engrenage assez difficile. Maintenant, justement, si on parle des gens qui ont réussi, ce n'est pas pour ne pas évoquer la souffrance de ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est pour essayer justement de faire entendre que ce trouble existe, qu'il doit être connu et qu'il faut s'y adapter, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place toutes les stratégies. Il faut, en tant que parent, se reposer des questions, se remettre en question, agir différemment, l'école, tout l'entourage, l'enfant, tout le monde doit s'y mettre. Une fois qu'on fait le diagnostic, il faut donner les clés d'une adaptation du comportement.
On peut rappeler, avant de terminer cette émission, l'association qui existe en Belgique, qui est hyperactive, mais dans le bon sens.
Dans le bon sens du terme, oui.
C'est TDA-H Belgique ASBL, et vous pouvez trouver les informations sur le site www.tdah.be. Il existe d'autres associations, bien sûr, mais c'est probablement l'une des premières qui s'est mise en place et qui a développé toute une série de ponts entre des disciplines aussi pour pouvoir agir en la matière.
Très efficace et très à l'écoute.
Donc c'est www.tdah.be. Eh bien docteur, merci.
Merci à vous.
C'est dommage. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de se retrouver.
Avec plaisir.
On aurait pu dire encore beaucoup de choses. On refera d'autres émissions sur le sujet, c'est promis, avec d'autres approches comme on le fait d'habitude.